Diane Lemieux est là pour sa chronique du jour. Bonjour, Diane.
Bonjour, Patrick.
Donc, la Cour supérieure aujourd'hui a rendu sa décision dans la demande d'injonction de l'Université McGill. L'Université est tannée d'avoir ce campement pro-palestinien sur le campus. Réponse du juge, non.
Exact. Et moi, je me réjouis de savoir qu'il y a un juge, donc une personne compétente et qui a les connaissances, a soupesé tous les faits, les arguments et a pris une décision à la lumière de nos lois et on est dans un état de droit. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce contrepoids. Il a fait une remarque intéressante. Il a dit, en substance, ça soulève des questions complexes parce que on doit jongler avec la balance entre le droit de jouir de sa propriété et la liberté d'expression et on est sur une propriété privée. Alors, j'ai le sentiment que l'université va bien explorer cette remarque du juge. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis prête à gager que ça va déraper. Comme on dit, tout ce qui se traîne se salit. Les campements se multiplient. L'UQAM a ouvert une enquête sur des présumés vols d'équipement. On voit apparaître des manifestants qui prennent la parole et qui semblent avoir quelquefois peut-être un agenda différent de celui au départ de ces campements.
À quoi tu fais référence?
Ce jeune homme là c'était trop drôle, qui a répondu au sujet des présumés vols de clôture que ces matériaux avaient été fabriqués et volés à la terre. Bon. Une dame qui s'est présentée en entrevue, se présentant comme une porte-parole masquée, qui refuse de dire son nom. C'est difficile de demander la transparence quand on ne l'est pas. Puis il commence à avoir aussi des témoignages, des images de conversations quand même assez virulentes entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Moi, ça me rappelle la crise d'Oka dans les années 80, 78 jours de manifestations difficiles où on contestait, ce qui était contesté, c'était des projets de développement immobilier sur des terres contestées. La SQ intervient, gâchis, armée canadienne. Plus récemment, le convoi de liberté à Ottawa, qui contestait les mesures vaccinales. Il avait le droit de le faire, mais pouf, infiltration d'extrémistes de droite.
Et j'ajoute, Diane, c'était avant la pandémie, là, on l'a un peu oublié, mais les blocages de chemin de fer par des nations autochtones.
Exact. Alors, les sources de dérapage, là, ils peuvent venir de toutes les parties en présence. Ils peuvent venir des gens qui manifestent parce que souvent, les manifestations sont contaminées par des gens, donc, comme je le disais, qui ont d'autres agendas, qui sont dans
qui aimeraient ça que ça dérape.
Exactement. Qui sont dans un mode, la fin justifie les moyens, qui commencent à poser des gestes sur la ligne, mais tolérables, mais qui finissent par devenir intolérables. Des décisions des autorités en cause qui peuvent avoir un petit enjeu de dosage. Des services de police aussi qui sont à risque de manœuvres dont le dosage est peut-être pas être discutable, allant jusqu'à des bavures policières. Mm-hmm. Je veux dire, on est à risque de ça. Puis j'ai pas les réponses, mais c'est très difficile de réconcilier l'irréconciliable. Il y a des points de vue qui se défendent d'un côté ou l'autre, mais deux remarques. Un, y a-t-il un corridor de communication entre les autorités universitaires et certains représentants de ces manifestants? Et est-ce qu'il y a une certaine qualité à ce corridor de communication? Parce que ça se discute aussi des conditions d'une manifestation. Puis deux, les dérapages risquent d'être déclenchés par des gestes des manifestants. Pouvez-vous vous trouver des manifestants qui sont sensibles, qui sont crédibles, qui sont sérieux, qui vont éviter les dérapages? Est-ce que quelqu'un, lorsque présumément on a utilisé des biens d'un entrepreneur sur le chantier, est-ce que quelqu'un a levé la main en disant on prend pas les biens qui ne nous appartiennent pas? Bref, je suis un peu inquiète.
C'est un peu le scénario qui t'inquiète là. Ça ressemblerait à quoi?
Bien, ça ressemble à des bris, ça ressemble à des empêchements, que la liberté d'expression empêche aussi d'autres personnes de pouvoir exercer leurs droits. Ça ressemble à des voisins qui commencent à être tannés. Ça ressemble à des policiers qui interviennent, puis bon, évidemment, le guide parfait pour intervenir dans ces cas-là, il n'existe pas. Donc, des dérapages, des blessures de personnes, tu sais, je veux dire, ça peut être tout, là.
Non, parce que si la police débarque, puis la police de Montréal pourrait débarquer, tu sais, injonction ou pas,
oui,
s'ils ont un motif, bon, ils peuvent y aller. Jusqu'à maintenant, ils y vont pas.
Ils doivent observer, par ailleurs. Ils doivent être attentifs. Puis ils ont raison.
Quand je viens travailler, là, quand je viens travailler en vélo, je passe à côté, là. Disons qu'il y a beaucoup de policiers. Mais ce que j'ai à dire, c'est, moi, j'ai pas l'impression qu'ils rentreraient en faisant dans le tas comme on a vu aux États-Unis.
Non.
Mais, ceci étant dit, connaissant la nature de la militante, eux, je te dis pas qu'ils vont blesser les policiers, mais ils voudraient provoquer des scènes où ils ont l'air de martyrs.
Et là, les policiers doivent être l'adulte du groupe, n'est-ce pas? Mais ça m'inquiète un peu.
OK. Mais écoute, on va croiser les doigts. Parle-moi de ce sondage léger là, qui pose un diagnostic sur les intentions de vote au provincial au Québec, parce que il y a quand même là du mouvement. En tout cas, Québec solidaire perd des appuis.
Clairement. Puis je pense que les gens sont en train de se dire... D'abord, les Québécois, ils n'aiment pas les chicanes. Fait que les gens qui adhéraient à Québec solidaire sont en train de dire, bien là, réglez vos affaires, puis on va se reparler plus tard. Mais première chose, on entend souvent les hommes et les femmes politiques dire, je ne commente pas les sondages. Mais je peux te dire une chose.
Quoi?
Ils les lisent. Ils les analysent. Ils les appréhendent. Ils les anticipent. Ça carbure au sondage. Là. On se comprend, là. Voilà. Donc, les mouvements sont pas si grands dans ce sondage-là, du plus 2, du moins 1. C'est 2 points de moins pour le PQ, pour la CAQ, pour QS, comme intention de vote. Mais la CAQ et QS descendent de quand même depuis un bon moment. 2 points de plus pour le Parti libéral. Meilleur chef, je pense que c'est M. Tanguay qui gagne quelque chose. Je pense qu'il doit être content.
Il
fait un bon boulot. Paul Saint-Pierre Plamondon, il en a perdu un peu. Ses interventions du genre Ottawa planifie explicitement le déclin du Québec, là, ça se peut qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était peut-être trop fort en café. Mais l'autre élément, Patrick, c'est que Québec solidaire et la CAQ, ce sont somme toute de jeunes partis dans l'histoire du Québec.
Ça n'a pas 20 ans, les deux.
Non. Alors, ils ont puisé, là, les électeurs, c'est comme dans une assiette. L'assiette n'a pas grandi, là. Ils ont puisé dans les électeurs qui étaient déjà présents. Donc, la CAQ en a pris au PLQ, en a pris au PQ, visiblement. Québec solidaire est allé piger aussi, probablement, dans la frange un petit peu plus de gauche du PQ. Donc ce sont des vases communicants. Jean-Marc Léger a évoqué que les pertes de Québec solidaire auraient pu bénéficier au Parti libéral, parce qu'au Parti libéral, il y a aussi des Montréalais, des anglophones à gauche, mais là, ils sentent que QS renforcer sa position souverainiste, là, ils ont moins le goût.
Puis tu sais, Diane, quand on regarde les mouvements politiques, là, on regarde ça, les analystes en termes de gauche, droite, etc., les gens, là, sont pas comme ça. T'sais, tantôt, je t'ai vu sourciller un peu quand Valérie Leboeuf faisait son bulletin de nouvelles et qu'on a entendu Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, dire...
Voyons donc.
Non, mais attends, dire, moi, je pense que je peux aller chercher des votes à Québec solidaire. Diane, Pierre Poilievre, là, il fait le plein de votes.
Oui, oui.
Il y a des gens qui ont voté NPD qui vont voter pour lui.
Oui, et ça m'amène que la loyauté... Mais je pense qu'Éric Duhaime, il rêve en couleur, là, mais en tout cas... Mais la loyauté... Tu sais, on votait de génération en génération, bleu et rouge.
C'est
terminé, à peu près terminé. Les gens, ils choisissent selon ce qui est bon pour eux, selon leurs valeurs, puis ça peut changer d'une élection à l'autre. Et comme disait M. Bourassa, 6 mois en politique, c'est très long. Il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir d'autres crises. Il y a un chef du PLQ qui est à venir. Les élections fédérales peuvent changer la donne aussi. Donc, tout n'est pas fixé, mais il y a quand même quelque chose qui bouge dans ces vases communicants.
Peut-être que Catherine Dorion pourrait revenir à QS ou devenir première ministre du Québec. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Merci, Diane.
Au revoir.
Avant d'aller à la pause, on va aller rejoindre en dernière heure Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à l'émission de Paul le matin, parce qu'une femme a été retrouvée morte en Montérégie à Armstown. Salut, Bénédicte.
Allô, Patrick.
Donc, ça se passe à Armstown. Qu'est-ce qu'on sait?
Ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant, c'est qu'autour de 10h30 ce matin, les policiers sont appelés à se rendre à une adresse à Delary Cairns. C'est dans un immeuble à logement. Et à l'intérieur, ils découvrent une femme de 34 ans qui est gravement blessée à l'arme blanche et même son décès va être constaté sur place. Selon les premières informations, il y aurait eu un appel pour une altercation à l'intérieur de ce logement-là. Mais quand les policiers arrivent, le décès est constaté sur place. Il y a un homme de 60 ans qui a été transporté au centre hospitalier pour des blessures mineures. Il va être rencontré dans les prochaines heures, peut-être, du moins quand son état va le permettre. Et ce que j'ai pu avoir comme information, Patrick, c'est qu'il s'agirait du père de la victime, donc l'homme de 60 ans qui aurait poignardé à mort la femme de 34 ans qui serait sa fille. C'est ce qu'on a comme information pour l'instant. Les enquêteurs des crimes contre la personne sont sur place. L'identité judiciaire, j'essayais de voir est-ce que le suspect est connu des policiers. On dit qu'il serait pas connu. Est-ce que les policiers avaient été déjà appelés à se rendre à cette adresse-là? Pour l'instant, on n'est pas en mesure de donner de l'information. C'est la thèse du meurtre qui est privilégiée par les enquêteurs au moment où on se parle. Alors, c'est ça qu'on a comme information à préliminaire. Évidemment, tu comprendras qu'il va y avoir une enquête et qu'on va déployer à toutes les ressources nécessaires pour essayer de déterminer exactement ce qui s'est passé. Mais disons que ça s'ajoute à une longue liste d'événements où il y a des femmes qui ont été assassinées. C'est une femme de plus. Et là, c'est un cas assez particulier. On voit pas ça très souvent, je te dirais. Un père qui poignarde à mort sa fille, c'est ce qui se serait passé dans cet immeuble à logement. Donc, moi, je suis en direction. Je pourrais avoir un petit peu plus de détails un peu plus tard.
Merci beaucoup, Bénédicte. Bonne route et on se reparle peut-être d'ici la fin de l'émission. Sinon, on t'écoute chez Paul demain.
Bye.
C'était Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à l'émission. Puisqu'il faut se lever.
La chronique mi-chaud, mi-froid, une présentation de Point S Garage Martin-Roy de Sainte-Luce.
Novarium, c'est un projet qui a été développé pour rendre Rimouski innovante et aussi la positionner dans les recherches de la mer, sciences, ouais. Les sciences de la mer. Alors, il y avait un président directeur général qui était là, qui avait le mandat de gérer les deux. Et il y avait une certaine latitude pour gérer des sommes. Et il y a un déplacement de sommes qui s'est fait vers Novarium que la ville essaie d'expliquer et peut-être évidemment de récupérer. Ben, la personne irait, louerait les espaces, utiliserait ça pour faire ses recherches puis tout ça pour essayer de les transférer en appliqué. Ouais. On appelle ça de la recherche appliquée, c'est-à-dire que ça serve à quelque chose, oui. Au bout de la ligne. Un petit salmigondi ce matin, oui. Deux ou trois sujets.
Un melting pot.
Un melting pot en anglais. Fait qu'on a fait, ouais. Les deux, on a été bilingual, là, c'est correct. On a respecté l'esprit du, ouais. Fédéralisme canadien.
Du lundi au vendredi à 8h15.
Votre vision est dérangeante, vous ne voyez plus aussi bien qu'avant. Vous êtes déçu de vos lentilles intraoculaires? Vous n'aimez pas porter de lunettes? Au Centre ophtalmologique de l'Estuaire, plusieurs solutions visuelles sont disponibles à divers problèmes oculaires. Prenez votre premier rendez-vous dès maintenant pour évaluer la santé de vos yeux. Notre équipe vous présentera les options qui s'appliquent à vous. Notre parcours cataracte a reçu la note de 98,3% à la visite d'agrément Canada. Appelez au Centre ophtalmologique de l'Estuaire au 418-723-2016.
Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 48 millions. Ça change pas le monde. Sauf que, quand même, ça commence à le changer un petit peu, là.
Vous êtes rendu à votre pause? Le bar laitier La Machine à glace à Mont-Joli est là pour vous. Ouvert 7 jours sur 7 afin de vous servir avec enthousiasme, La Machine à glace, c'est une crêperie à l'image du hockey. Venez déguster l'une de nos spécialités, les coupes glacées servies avec un de nos coulées de cuir fait maison ou tout simplement un cornet dans les formats de novice à midget trempé dans l'un des 12 choix de chocolat. Le bar laitier La Machine à glace à Mont-Joli, c'est un rendez-vous beau temps, mauvais temps.
C'est le sprint du printemps au Santé 2000. Profitez des promotions anti-inflation de Santé 2000 Le Club allant de 15 à 50% pour un été en santé. Joignez l'utile à l'agréable. S'entraîner à deux, c'est mieux et c'est moins dispendieux. On double les rabais sur les abonnements étudiants en duo de 3 et 6 mois. Santé 2000 Le Club est en mode anti-inflation avec des rabais allant de 15 à 30% sur nos abonnements en salle, les cours de groupe et les combos. Prenez votre santé en main à partir de 1,25$ par jour. Bienvenue au Club. Inscription santé 2000leclub.com, certaines conditions.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
Des animateurs de talent, des chroniqueurs pertinents. Vos idées en liberté avec CFIX FM 93.
Chronique financière de Pierre-Yves McSween est une présentation de H. Grégoire Rimouski, votre spécialiste en financement automobile.
Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc les meme stocks qui chutent en bourse, oui. Ça, ce sont des actions en bourse qui sont fortement, disons, propulsées par ce qui se passe dans l'Internet.
Oui, et écoute, je t'avais dit hier, écoute, tout ce qui monte redescend, eh bien, ça n'a pas été long. Tu sais, pour l'instant, il y a une chute d'environ là, 20%, 18% pour AMC, COS, GameStop, c'est-à-dire des actions qui sont poussées par ce mouvement de foule de petits investisseurs. Et c'est fascinant à voir à quel point tu as des gens maintenant qui peuvent amener ou drainer une quantité de personnes importantes sur ce type de produit-là, même sans